Bonjour et bienvenue, nous sommes entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L, merci de nous écouter. Je vous rappelle que nous sommes également en vidéo sur les internets, cherchez entre Loire et Loin sur Facebook, sur YouTube. Profitez-en pour vous abonner, pour liker, pour partager, pour commenter, pour en parler à vos amis, etc. Allez, on a un sommaire très chargé aujourd'hui, en ce samedi 5 juin, puisque nous parlerons de la Route de l'Espoir, une randonnée à pied ou en moto qui a lieu demain matin au lac de Chalette au profit d'une association dont nous parlerons un petit peu plus en détail tout à l'heure. Nous resterons au lac pour évoquer les activités nautiques qui sont proposées et qui reprennent ces jours-ci. Nous irons faire un tour à la médiathèque de l'âme où, dans quelques jours, samedi prochain, un événement mystérieux doit se produire, l'aventure Tu t'es lu. Nous en vont tenter d'en savoir un petit peu plus en compagnie d'un des protagonistes de cette histoire, Raphaël Bardas. Et enfin, nous rencontrerons l'artiste montargoise Laurence Nobilet qui nous expliquera son parcours, son travail, ce qu'elle prépare, etc. au micro de Sandrine Manteau. Mais pour commencer, je vous propose de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis quelques semaines déjà dans cette émission, mais qui continue à faire ses petites chroniques, c'est Bruno, assez de blabla.
Bonjour, je crois que l'on dit que derrière chaque grand artiste se cache un homme. C'est bien l'expression exacte ? Luc Totterwitz, l'autre moitié alsacienne du groupe Vaïetani, ne s'offusquera sans doute pas si je dis que ce duo est essentiellement porté par sa chanteuse, et là je prends ma respiration, Vaïetani, Tea Niniu, Raite Moana. Un peu plus de 3 ans après leur premier opus et leur remarquée et remarquable adaptation de Belle Île en mer, Marie Galante, le groupe propose un très bel album, Signs. C'est un mélange étonnant et séduisant de pop anglaise et de musique polynésienne, mais par contre avec aucun titre en français. Ce mélange des couleurs donne un opus lumineux qui nous titille agréablement les oreilles. Il y a aussi ce supplément d'âme fait d'humanisme, de générosité et d'amour, à l'exemple du titre Embrace. On peut sans doute taxer ce nouvel album d'opus de world music et même de folk polynésienne, grâce à ses teintes océaniques et tahitiennes. La chanteuse de Vaïetani y est originaire. On pense aussi au morceau Kiss Kiss et surtout formidable Oh My. Écoutez le son de ma voix commence en maori la chanteuse, avant d'enchaîner en anglais avec la même générosité. Pas besoin de maquillage, pas besoin de robe, ce soir je porte le rythme, mon tissu et ma danse. On pourra trouver dans cet album autant l'influence de cette pop folk internationale héritée de Tracy Chapman qu'un rappel des origines de la culture de la chanteuse de Vaïetani. Le morceau Reason est teinté de son tahitien avec le ukulélé joué par Luc Totterwitz. Je pense aussi au titre Aitiara, qui est une très jolie ballade en maori avec voix et piano. Je n'oublie pas non plus le reggae du morceau Hungry, signe que le duo entend bien surfer sur des influences venues de tous horizons. Mais assez de blabla, je vous laisse découvrir Signs, ce très joli album des Vaïetani.
You send me signs to signify that you lie. In every beam of light, and I feel you, though I cannot see further. You, I love you, know is forever. Come as a bee or a butterfly. Leaves to pave the way on my ground. Yes, I feel you when you're blowing in the wind. You with every inch of my skin coming from the river. I feel you fond of every moment that I live. Cause you're in every moment that I live. Now, becoming fond of every moment that I live. Cause you're
C2L Radio
89.3.
Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter sur C2L. Alors, comme chaque année, puis depuis quelques années maintenant, l'association Ensemble pour Manon organise la Route de l'Espoir. Une occasion de récolter quelques fonds et surtout de mettre un coup de projecteur sur une terrible maladie. Vous êtes donc conviés demain au lac, demain matin, pour faire une balade à moto ou une randonnée pédestre au choix. Pierre Juan nous en parle un petit peu plus au micro de Patrice Avzard.
Ça tourne.
Tout le monde tourne.
Tout le monde tourne, exactement. Il y a donc ce dimanche, balade des motards, tous ensemble avec Manon. Un petit peu le pourquoi de cette balade, avant de nous rappeler en quelques mots ce qu'est le syndrome d'Ehlers dans l'os.
Bah alors cette balade à moto, on a eu l'idée d'organiser cette balade-là il y a maintenant 7 ans, enfin 8 ans, puisque c'est la 7e édition, mais l'année dernière on n'a pas pu la faire à cause de... des soucis sanitaires. Cette balade-là, elle a été initiée par l'entourage de Manon, parce qu'il y avait beaucoup de motards dans l'entourage de Manon, et quand la maladie s'est déclenchée, et qu'à l'époque, le diagnostic venait tout juste de tomber par rapport à la maladie, c'est dans notre entourage familial et amical, où il y a beaucoup de motards, qu'on a eu l'idée d'organiser une balade de moto pour pouvoir... Il y a deux objectifs de cette balade, c'est récolter des fonds pour pouvoir financer la recherche, parce qu'il y a très peu de recherche sur cette maladie, financer le matériel des malades, mais aussi, surtout, faire connaître la maladie auprès du grand public et des professionnels de santé, parce qu'il y a des grosses errances de diagnostic encore aujourd'hui.
Et c'est quoi exactement cette maladie, ce syndrome d'Ehlers dans l'os ?
Alors, le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une maladie qui attaque le tissu et le collagène. Alors, en fait, le tissu et le collagène, c'est un peu, pour une maison, c'est les fondations, c'est le ciment. Lorsqu'on est en perte de production de tissu et de collagène, on va être amené à avoir des problèmes articulaires, notamment des luxations, des subluxations qui ont fait que, par exemple, pour Manon, la répétition de luxation fait qu'aujourd'hui, elle a les doigts qui sont totalement immobilisés. Ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à de la paraplégie, des grosses crises de fatigue, tout un tas de choses qui font que c'est handicapant dans la vie de tous les jours pour pouvoir vivre en société normalement, quoi.
C'est une maladie qui est bien reconnue maintenant ?
Alors, bien reconnue, on avance. On avance là où il y a quelques années, il n'y avait pas de plan national de soins pour les malades. Aujourd'hui, on a réussi à en obtenir un. Donc une reconnaissance sur le plan national de la maladie, mais par contre c'est le contenu. Aujourd'hui on va se battre au niveau du contenu de ce plan national de soins, parce qu'on s'est battu pour l'avoir, mais malheureusement c'est le contenu nous va pas, parce qu'on a un accompagnement au niveau médical pour certains au rabais. Je pense notamment à l'oxygénothérapie qui apporte beaucoup aux malades le soir par rapport à la fatigue, par rapport à la détente musculaire. Et par exemple, l'oxygénothérapie ne fait pas partie de ce plan national de soins, puisque ça n'a pas encore été reconnu par des expériences scientifiques qui valident vraiment l'apport de cette thérapie-là. Et pour le coup, on se retrouve aujourd'hui avec des situations, des malades qui sont obligés de payer très cher pour leur matériel, là où avant le plan national de soins, en fonction des départements, des MDPH et des caisses d'assurance maladie, on arrivait à avoir ces remboursements.
C'est tout de même néanmoins un petit peu mieux qu'il y a 8 ans, on va dire, quand pour Manon, par exemple,
ça avance.
La maladie s'est déclarée.
C'est sûr que ça avance, puisque un exemple tout bête, au CHAM d'Amilly, quand on amenait Manon et qu'elle avait une luxation, on avait un protocole de soins qui était établi par les médecins qui la suivaient au niveau de Paris, au niveau du centre de référence. Et des patients qui arrivent pour expliquer à un médecin comment il doit prendre en charge le patient, ça a été un petit peu compliqué au début. Forcément, les médecins, ils peuvent pas connaître toutes les maladies. Ils ont fait des années et des années d'études, donc c'est difficile à entendre pour eux qu'il y a un protocole de soins qu'ils connaissent pas à appliquer. Et ça, on a eu un travail de très longue haleine avec l'association auprès du CHAM d'Amis pour faire reconnaître ce protocole de soins. Et aujourd'hui, quand Manon est prise en charge au CHAM d'Amis, le protocole est respecté à la lettre parce qu'on a pu faire connaître et reconnaître la maladie auprès du corps médical montargois. Et ça, c'est une victoire. Effectivement, on arrive à avancer en faisant connaître la maladie, notamment surtout auprès du corps médical, puisque les errances de diagnostic peuvent amener derrière à des choses dangereuses pour les patients, parce que si la luxation n'est pas remise selon le protocole de soins, on peut mettre en l'air les articulations de la personne qui est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc c'est une réelle importance, et c'est aussi tout le travail de l'association, c'est de faire connaître la maladie auprès du grand public, mais aussi auprès du corps médical.
Oui, et justement, donc cette balade des motards pour dimanche, ça va être ça? Faire connaître encore plus.
Alors, faire connaître la maladie, faire connaître encore plus, et cet acte de solidarité, ça fait du bien aux malades. Cette année, on aura moins de malades que les autres années qui vont se déplacer à la balade, parce que forcément, avec le contexte sanitaire, c'est plus compliqué. Mais tous les ans, cet acte de solidarité rebooste les batteries des malades. Même ceux qui ne viennent pas y participer, quand ils voient les images de centaines et de centaines de motards qui se mobilisent autour des malades atteints du syndrome d'Ehlers-Danlos, bah quelque part, ils se disent « on n'est pas tout seul ». Ils se sentent soutenus. Et ça, quelque part, c'est un gros travail qui est fait, parce que quand on est seul face au corps médical, face au MDPH, face aux caisses d'assurance maladie, bah, des fois, on peut vite baisser les bras quand on voit les tonnes de dossiers administratifs qu'il y a à faire pour pouvoir faire reconnaître la maladie. Là, dans ces moments-là, ils se sentent soutenus. Donc, effectivement, ce temps-là, ça leur apporte beaucoup. Et puis, ça apporte aussi, tous les ans, on récolte quand même plusieurs milliers d'euros pour financer ce que je disais en début d'interview, les recherches par rapport à la maladie, parce qu'il y en a très peu, financer le matériel qui est peu ou pas remboursé en fonction des départements, parce que avec la décentralisation des compétences en termes de santé et la déconcentration, la prise en charge d'un malade du syndrome d'Ehlers-Danlos peut être différente dans les Bouches-du-Rhône et au Nord-Pas-de-Calais, moins avec le plan de soins. Mais voilà, donc ils ont besoin de se sentir soutenus déjà moralement. Et puis bah, derrière, le soutien financier, ça vient apporter tout le reste, quoi.
Ça se passe comment, cette balade?
Alors la balade, ça commence à 8h, donc au lac de Chalette, du côté du théâtre de Verdure, là où il y a les abris. À partir de 8h, on prend les inscriptions. Donc à savoir qu'il y a une balade de motards ce jour-là, mais il y a aussi une balade pédestre avec plusieurs circuits. Je ne les ai plus en tête le nombre de kilomètres, mais il y a plusieurs circuits pour la balade pédestre. Donc à partir de 8h, on prend les inscriptions. Le départ est prévu pour 9h. Donc les motards prennent la route. Ils ont un point de ravitaillement à la mi-parcours. Et puis après, ils reviennent au lac. Alors d'habitude, on fait un grand repas avec les associations. On peut compter. On a la chance aussi, je voulais venir là-dessus, de compter sur un tissu associatif à Chalette et sur la solidarité des Chalettois, parce que je pense que ça se ressent vraiment. On serait dans une autre ville, je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ça, parce que quand on a voulu faire la route de l'espoir, tout de suite les associations des communautés portugaises, des communautés espagnoles, des communautés turques sont venues nous donner la main pour faire les repas, pour tout ça. Cette année, ça va être moins possible, encore une fois, avec la crise sanitaire, mais il y a quand même l'association de la COTAM et des femmes turques, je crois que c'est Mimosa, qui viendra nous faire des kebabs le midi. Donc ça sera dû à emporter, ça sera pas comme tous les ans où on se met tout joyeusement autour d'une tablée, ça sera emporté. Puis il y aura un petit point de restauration de bar, et puis voilà, après on va essayer de... On va compter sur le beau temps pour essayer de prolonger la journée au maximum, pour pouvoir profiter de cette solidarité et puis de cette ambiance qu'arrive à mettre les motards, parce que le monde de la moto, moi je le connaissais pas avant toutes ces balades, et c'est vrai qu'il y a une atmosphère qu'il y a autour de la balade tous les ans qui fait que on n'a pas envie de s'arrêter le soir. Quand on replie le matériel, on est un peu triste.
Dernière petite chose, pour ceux qui aimeraient avoir plus de renseignements, que ce soit sur cette journée balade des motards, que ce soit sur la maladie.
Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Ensemble pour Manon, sur laquelle il y a pas mal d'informations quand même qu'on partage au quotidien par rapport à la maladie. Donc, par rapport à la balade de moto, toutes les informations sont sur cette page Facebook. Et j'invite aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur recherche sur la maladie, à aller sur la page du GERSED, le groupement d'études et de recherche du syndrome d'Ehlers-Danlos. En fait, c'est un regroupement de plusieurs associations On s'est regroupé pour pouvoir peser un petit peu plus par rapport au ministère de la Santé, enfin par rapport à tous les interlocuteurs qu'on pourrait avoir sur le plan local et sur le plan national. Et ce groupe-là, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a des médecins qui sont dans ce groupe-là. Donc, ils produisent souvent des documents qui expliquent la maladie, qui expliquent où on en est au niveau de la recherche, qui expliquent où on en est au niveau des soins, ce que j'expliquais tout à l'heure, des freins qu'on peut avoir. Et voilà. Donc, j'invite tout le monde à aller sur la page Facebook du GRCED pour avoir de plus amples informations.
Donc, il n'y a plus qu'à dimanche avec le beau temps.
Dimanche avec le beau temps, la bonne humeur et puis pour recharger les batteries de tout le monde et repartir sur une année qui, je l'espère, sera plus simple parce que c'est vrai que la crise sanitaire, tout le monde a mangé le plein fouet, mais les personnes en situation de handicap particulièrement. Je pense notamment aux jeunes, parce que Manon, là, elle est en train de faire ses études à Tours. Elle n'était pas la seule dans cette situation-là, mais les jeunes en situation de handicap qui étaient étudiants à la fois. On sait la difficulté des étudiants dans le milieu ordinaire, mais là, tout a été décuplé. Ça a été une année très, très, très difficile pour les malades. Donc, on est très content de pouvoir remettre le pied à l'étrier.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. N'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing sur ces deux ailes. Nous allons rester du côté du lac en compagnie de Patrice Avzard. Et cette fois, nous allons même au milieu du lac. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier par vous-même en regardant la vidéo de cette interview, sur les internets, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous profiter pour vous abonner, pour liker, pour partager, pour commenter. Nous sommes donc au milieu du lac en compagnie de Florent pour évoquer les activités nautiques qui redémarrent ces jours-ci.
Déjà, nous parler un petit peu des activités proposées par le club, tout simplement.
Alors, ce qu'il faut savoir, donc Nautique Évasion est en place depuis 12 ans maintenant, cette année, sur le lac de Chalette. On propose pas mal d'activités. Donc, le point fort, c'est surtout pour les enfants. Donc on fait de l'optimisme pour les enfants, on fait du topaz pour les enfants adultes. Donc ça, c'est dans la classe dériveur. Après, on a les dériveurs adultes, qui sont style 420, Vélic, 29er. Après, on a tout ce qui est voile habitable. Donc ça, c'est au lac du Der, sur un bateau de 7,50 m. Après, on a la partie planche à voile, donc enfants et adultes. Et après, on a tout ce qui est partie canoë et le paddle.
Donc, lac du Der, c'est que tout ne se passe pas ici à Chalette.
On va dire qu'à Chalette, c'est la petite salle annexe et le lac du Der, ça va être la grande salle de réunion. Si on peut imaginer un petit peu la scène. Donc là, le lac du Der, on a un bateau qui fait 7,50 m. On fait de la formation croisière et habitable sur le site. Donc c'est un plan d'eau qui fait 4800 hectares, donc 48 km², 6 km de large, 12 km de long.
Effectivement, c'est un pins ici à Chalette, pourrait-on dire.
Tout à fait, donc Chalette, c'est 22 hectares, dont 12 navigables. 12 hectares navigables, donc c'est tout petit.
Ah oui, donc vous ne pouvez pas vous promener partout.
Alors, ce qu'il faut savoir à Chalette, il y a les deux zones, il y a la zone de voile et la zone de pêche qu'on partage. Et puis la troisième petite zone qu'on partage conjointement, c'est le modélisme.
La cohabitation entre pêcheurs et puis ceux qui naviguent, ça se fait facilement quand même?
Ça arrive à se faire assez facilement. Il y a des petites prises de tête de temps en temps. Mais en général, ça reste convivial et on essaye toujours de trouver une entente. Et il y a l'esprit sportif qui revient. Et donc chacun repart dans son coin tout content et ça se passe bien.
Ça se passe bien. Vous accueillez quelle catégorie d'âge ici?
Alors à partir de 6 ans, du moment qu'ils savent nager, et puis après j'ai envie de dire jusqu'à tant que ça tient la forme, donc 60, 70, voilà, c'est à peu près la tranche d'âge.
Donc tout le monde peut venir s'essayer au moins?
Tout le monde peut venir essayer, on a aussi bien des femmes que des hommes, que des enfants, on a aussi les parties handicapées, donc on cible vraiment tout public.
Le club a été touché, on va dire, par la situation sanitaire. On sait que certains l'ont été, on peut penser au foot, au hand, au basket. Le nautique a également donc eu des répercussions.
Alors nous, cette année, on a eu entre guillemets un petit peu de chance. On a eu juste une semaine de fermeture. Après, autrement, l'année dernière, oui, on a théoriquement dû ouvrir au mois d'avril, mais on a ouvert que mi-juin, dû à la situation sanitaire.
Donc là, l'ouverture, c'est acté, c'est fait en ce moment.
Donc l'ouverture, c'est acté. On est ouvert le premier week-end d'avril. Et ça se passe bien. On a les gestes barrières qui sont mis en place. On a un protocole sanitaire. Et tout se passe bien.
Pour ceux qui veulent rejoindre le club, c'est en loisir ou est-ce qu'il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, un côté compétition?
Alors on fait les deux. On fait dans un premier temps la partie loisir, ce qui touche 95% de notre structure. Et les 5% restants, c'est de la compétition. Donc ça va être souvent compétition dériveur ou habitable. Et là, on est en train de mettre en place aussi la compétition planche à voile.
Donc tout ça pour cette nouveauté, la compétition planche à voile, ce serait à partir de quand?
Alors si la situation sanitaire le permet, à partir dès cette année, ce qui serait bien. Comme toutes les autres compétitions, si elles peuvent reprendre cette année, ce serait un plus pour nous.
Sinon, donc, pour cet été, le club, il va ouvrir. On peut le supposer quand même.
Bien entendu. S'il n'y a pas de frein sanitaire. Donc nous, on sera ouvert tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 16h30 jusqu'à 20h. sauf s'il y a situation sanitaire, couvre-feu, ce que je n'observe pas, plus les week-ends de 14h à 20h. Après, en dehors des périodes de vacances, on est ouvert tous les week-ends et les jours fériés sur les mêmes créneaux, donc 14h, 20h.
Donc là, pareil, pour cette période, des petits stages seront proposés pour ceux qui le souhaitent.
Donc là, aux vacances de Pâques, on a fait une semaine de stage et on va reconduire la 2 mois de stage, donc juillet-août, sur le plan d'eau à Chalette et également au lac du Der si on a l'occasion d'avoir des pratiquants intéressés par la voile habitable.
Et on va pratiquer quoi justement ici pour ceux qui restent ici?
Alors pour ceux qui restent ici, ça va être essentiellement de l'optimisme pour les enfants. Et puis pour les plus grands, ça va être du topaz, donc c'est un dériveur adulte et ado. Ou la planche à voile, donc support individuel.
Donc histoire de passer un bon moment, on contacte le club directement ici sur place?
Donc soit qu'on vient directement sur place, prendre les rendez-vous pendant les horaires d'ouverture, soit qu'on peut nous contacter via la page Facebook ou par téléphone.
Bien, voilà déjà donc quelques renseignements. Et puis, il y a quelqu'un à côté de vous, on l'a pas beaucoup entendu, c'est Léo, il est en service?
Alors Léo, il est en service civique depuis cette année, le mois d'avril. Il a un contrat longue durée de 8 mois.
Alors Léo, pourquoi un service civique ici, au club de Chalette, au club nautique?
Donc j'ai choisi de faire un service civique ici à Nautique Évasion parce que ça fait 6 ans maintenant que je suis au club. Donc ça fait 6 ans que je fais de la voile et maintenant j'ai vraiment envie de continuer et maintenant apprendre aux gens mon sport que j'aime.
En faire une profession?
Oui, tout à fait aussi. Passer le monitorat et après un stade au-dessus, le capitaine de sang. Qui consiste à faire des convoyages et apprendre les gens à naviguer sur des habitables.
Comment êtes-vous venu, vous, à pratiquer la voile? C'était de famille ou est-ce que non, au sortir de l'école?
Alors non, pas du tout, pas de famille, c'était avec les APPN de Chalette, donc en CM2. Donc voilà, on a fait 4 semaines de voile, ça m'a vraiment plu, donc j'ai continué et je suis encore là.
Sinon, pour revenir un petit peu au club, à l'heure actuelle, c'est combien d'adhérents?
Alors l'année dernière, on a clôturé l'association en fin d'année avec 57 adhérents. Là, on en est à la 20aine passée, donc on mène un bon train. Et je pense que d'ici l'été, on va passer facilement la 50aine, voire la 60aine.
Oui. Oui, parce qu'il est toujours temps de s'inscrire. Jusqu'à quand, justement, on peut?
On peut s'inscrire jusqu'à la fin d'été, hein. Après nous on fait des tarifs au prorata et après on fait même des tarifs qui courent jusqu'à l'année prochaine.
Donc tout pour bien passer un bon moment, surtout quand il fait beau.
Tout à fait, nous on est là vraiment, c'est une association où c'est un esprit sportif mais également très familial et convivial et ça c'est quelque chose qu'on tient à créer et à développer en permanence.
Un petit mot de la fin, Léo, pour encourager ceux qui hésitent justement à passer le cap. Peut-être qu'ils se disent non, c'est pas pour moi, même s'ils ont quelque chose en eux qui les incite, qui leur donne envie.
J'ai juste un petit mot à dire, c'est que en CM2, je ne savais pas ce que c'était la voile. Je suis venu sur un bateau, j'ai essayé et ça m'a vraiment plu. Donc il faut faire pareil, il faut venir essayer et voir si ça vous plaît.
Eh bien messieurs, merci et puis bonne voile.
Merci.
Merci Patrice, merci Florent. Et je vous informe par ailleurs que la baignade municipale au lac rouvre officiellement samedi prochain, le 12, et dès le week-end. Et jusqu'à fin juin, ça sera ouvert tous les week-ends, avec une baignade surveillée donc de midi à 20h. Et puis après tout l'été, hein, comme chaque année, juillet jusqu'à fin août, tous les jours, la baignade sera surveillée de midi à 20h. C'est chouette l'été à Chalette et à l'écoute de C2L, bien sûr.
Juillet, brillait.
Vous êtes une association, un particulier, une entreprise ou un revendeur?
Série 9 vous propose ses services de sérigraphie, broderie, flocage, impression textile numérique directe.
Objets publicitaires, impression numérique petit et grand format, marquage, gravure et découpe laser.
Découpe et fraisage numérique.
Personnalisation de coupes, médailles et trophées.
Pour nous trouver, deux zones industrielles, 45-270 Bellegarde.
Plus de renseignements au 02 38 90 42 02 ou bien par mail serinov@wanadoo.fr
ou sur le www.serinov.fr.
Serinov, un autre regard sur la publicité. L'école privée Les Roseaux à Montargis, une école aux pédagogies alternatives dont Montessori, qui respecte le rythme, les besoins de vos enfants et développe leur autonomie. Elle est dotée de nombreux matériels éducatifs et est installée dans un écrin de verdure en centre-ville. Faites bénéficier vos enfants en petits effectifs dans une atmosphère familiale et apaisante. Depuis plus de 10 ans, de la maternelle à la 6e, inscription possible toute l'année, l'école privée Les Roseaux, une autre éducation pour un autre avenir. 53 55 rue des Déportés à Montargis.
C2L. C2L Radio.
Nous sommes toujours entre Loire et Loindre, merci de nous écouter sur C2L. Alors figurez-vous que nous avons rencontré Raphaël Bardas, un auteur que vous avez déjà entendu dans cette émission, un auteur de romans d'aventure, du Gâtinais. Et il était très intrigué, car son nom figure sur des affiches un petit peu partout dans l'agglo. Il s'agit d'un événement mystérieux organisé par la médiathèque de l'âme et qui a lieu samedi prochain, le 12 juin. Tu t'es lu Aventure. En quoi ça consiste? Pour le savoir, nous sommes allés sur place enquêter en compagnie de Raphaël et nous avons rencontré là-bas Hervé Moplot et Régine Littez.
Bonjour. Les médiathèques ont eu la chance de rester ouvertes pendant toute cette période de pandémie, sauf lors de la première fermeture, du premier confinement, où là, il y avait personne et il n'y avait rien. Mais le reste du temps, soit on a fait du drive, soit on était ouvert. Et maintenant, ça fait un moment qu'on est ouvert. On a rouvert en décembre. Donc, en fait, on n'a pas refermé depuis. Donc, on est un service public qui est resté ouvert, avec des visiteurs quand même, entre 500 et 1000 par semaine, sur toute cette durée, ce qui est pas si mal. Et puis là, maintenant, ça redevient un peu plus normal, beaucoup plus de monde, mais on a eu cette chance et ça nous a permis de continuer de travailler, de continuer d'offrir aux gens des services dont ils avaient besoin, parce que quand on est confiné, avoir des livres, avoir des vidéos, avoir de la musique, c'est quand même pas mal. Et puis malheureusement, ce qu'on n'a pas pu faire dans cette période, c'est les animations, puisqu'on était très limité en termes d'accueil et qu'on voulait pas non plus prendre de risques. Tout n'était pas absolument interdit, mais c'est difficile de dire à des gens de venir s'il y a le moindre risque. On ne voulait pas les mettre en danger et mettre notre personnel en danger. Du coup, voilà, on arrive au moment où c'est le printemps bien avancé, mais on peut recommencer à faire des animations. On en a une vingtaine de prévues cet été, et ça nous fait vraiment plaisir.
Une vingtaine, carrément.
Une vingtaine, oui, sur l'été. C'est le bilan qu'on faisait tout à l'heure avec Régine. Moi, j'étais étonné aussi, d'ailleurs. Mais mais on en avait sous le pied, en fait. C'est qu'il y en avait plein de choses prévues qui n'ont pas pu être réalisées. Donc, on va pas tout faire cet été, bien entendu. Mais quand même, on va profiter de ce moment pour retrouver notre public. On démarre là avec le tutélu, je pense, et puis après il y aura des projections, il y aura des lectures différentes, des bébés crocs qui vont arriver aussi dans l'été. On va aussi être sur l'été de proximité, où on aura aussi deux animations qui se dérouleront là-bas, deux ou trois. Donc voilà, on a un programme qui est bien établi pour cet été. Tout est gratuit, universellement gratuit, dirais-je. On demande pas grand-chose aux gens pour s'inscrire. Et ensuite, ils participent à tout ça. C'est complètement gratuit, quelle que soit l'animation. On ne demande jamais d'argent aux gens. Sauf pour faire les photocopies.
Alors, oui. Bonjour, je m'appelle Raphaël Bardas. Je suis un auteur vivant dans le Montargois et j'ai vu récemment mon nom sur certaines affiches accolées à celui de la médiathèque et de l'AME. Donc je suis venu mener l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi mon nom était ainsi affiché, avec celui d'autres personnes bien entendu, mais pourquoi j'avais mon nom sur ces affiches. Et j'ai rencontré Régine.
Régine Littez, je travaille donc à la médiathèque de Montargis dans l'espace adulte et je suis une des organisatrices de l'événement Tutélu, pour lequel nous avons réalisé des affiches où Raphaël Bardas a pu voir son nom effectivement.
Et donc, alors, si j'ai bien compris, le Tutélu, ça commence par un apéro le vendredi soir.
Alors oui, et ça, c'est une info importante, et on savait que c'était important de le noter, effectivement. Le vendredi soir, à 18h30, on propose de recevoir le public, et puis nos invités, bien entendu, qui pourront, ils auront tout compris à ce moment-là, et nous pourrons expliquer au public comment va fonctionner notre Tutélu du lendemain.
Et est-ce qu'une personne qui n'est pas venue le vendredi soir peut venir le samedi quand même ?
Oui, tout D'accord. à fait. Et de la même façon, les gens qui viennent par curiosité le vendredi soir, parce qu'ils ne savent pas trop comment ça se passe, que c'est que ce fameux Tutélu montargois, ne sont pas, bien entendu, obligés de revenir le lendemain. Mais en général, ils le font.
Non. Il y a plusieurs créneaux, mais il y a aussi beaucoup de mystères. Parce que, par exemple, moi qui suis ici en tant qu'animateur, je sais que je vais, avec un autre créatif, un autre artiste, devoir accompagner un certain nombre de personnes dans les rues de Montargis pour que nous fassions ensemble quelques lectures. Alors, si j'ai bien compris, il y aura trois créneaux.
Oui, trois créneaux. Et le principe de base, c'est des balades lecture dans des lieux tenus secrets. Effectivement, on aime bien le secret, le mystère. Et pour le sujet du Tutélu, franchement, il n'y a pas mieux, puisque le sujet est l'aventure. Et donc, on vous emmènera dans des lieux tenus secrets que les gens, le public même de l'agglomération, ne connaît pas forcément. Trois possibilités de départ, à 14h, à 16h, à 18h. C'est mieux de s'inscrire auparavant parce qu'il peut y avoir beaucoup d'inscriptions et plus de places le jour même. Malgré tout, on peut quand même venir voir le jour même s'il reste des places. Et donc, on part à pied ou en bus, mais le transport est prévu. Et on vous emmène donc, et nos accompagnateurs, nos auteurs, comédiens et journalistes vous proposeront des textes qui ont été sélectionnés dans un premier temps par l'équipe organisatrice de la médiathèque et du pôle spectacle vivant, et ensuite par nos invités.
Donc nous, on va faire la lecture, si j'ai bien compris.
Tout le monde lit.
Et on va inviter les gens à participer. Alors, il n'y a rien à préparer en amont. Hein. Vous arrivez les mains dans les poches et nous, on fournit les textes. Alors, on va essayer de vous donner un peu envie en commençant la lecture. Et puis, on va essayer de distribuer un peu la parole et la lecture si vous en avez envie. Bien entendu, ça n'aura rien d'obligatoire, mais c'est toujours mieux si vous participez.
En fait, on a déterminé des binômes.
Moi, je savais qui ?
Eh ben non, mais ça, tu le sauras le jour même. C'est comme ça. C'est le mystère, c'est la surprise.
C'est donc, l'aventure.
Un auteur avec un journaliste ou bien un comédien ou une comédienne. Et puis, et voilà. Et ça, on saura ça le jour même. Non, vous le saurez la veille, les intervenants. Parce qu'on va se réunir quand même la veille pour...
Donc les gens se présentent, alors ils peuvent venir prendre l'apéro avec nous le vendredi soir.
Oui.
Sinon, ils viennent le samedi, un peu avant 14h.
Dans la salle du compte.
Salle du compte.
Au rez-de-chaussée. Et puis voilà, on sera là pour les accueillir à 14h, à 16h, à 18h. Il y aura à boire, et puis parce qu'on espère que la météo sera clémente et qu'il fera chaud. Et qu'on pourra être en extérieur aussi, ce qui est important vu les conditions sanitaires actuellement. Les groupes seront plus restreints que d'habitude, de façon à pouvoir garder les distances aussi. Et puis voilà, de toute façon, on sera là tout au long de l'après-midi. Il y aura quelqu'un ici pour pouvoir accueillir les gens, leur expliquer et puis répondre à toutes leurs questions.
Et si j'ai bien compris, donc en gros, on a 90 places dans l'après-midi.
C'est ça.
Et pour les gens qui auraient voulu participer, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait les intéresser en ce moment sur le thème du Tutélu.
Oui.
Quoi ?
J'ai pas compris ta question.
Ben, par exemple, je veux participer au Tutélu, j'arrive et plus de place. Est-ce que sur le thème du Tutélu, il y aurait au niveau de la médiathèque des choses qui pourraient m'intéresser ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Nous avons une superbe exposition derrière nous qui s'appelle L'aventure à la une. C'est une exposition qui a été réalisée à partir des unes du Petit Journal illustré entre 1892 et 1934. Des unes consacrées à des aventuriers et aventurières. Et à cette époque-là, Dieu sait si le sujet s'y prête. Et puis nous avons ajouté quelques unes de la République du Centre, de journaux beaucoup plus récents pour voir un petit peu la différence. Et donc nous avons des hommes, des femmes, des aventuriers sur mer, dans les airs, bien entendu, puisque l'aéronautique à cette époque-là.
Était... J'ai vu qu'on avait aussi quelques images de faits divers en conséquence de tentatives
Oui, tout à fait, dans les Alpes notamment. Voilà, donc une expo très, très illustrée et assez intéressante. Nous aurons également une projection d'un film qui s'appelle Mon Jules Verne, c'est un film documentaire de Patricio Guzman. Et puis cette exposition, je ne l'ai pas dit, mais elle est présente à la médiathèque jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 31 août. Donc vous avez le temps de venir la voir. Et puis n'hésitez pas à regarder aussi notre page Facebook, la page Facebook de la médiathèque, le site Agoram, le site internet, et puis la page Instagram également sur laquelle nous publions plein de choses.
Des vidéos. Oui, abonnez-vous parce qu'il n'y a pas que le tutélu à l'AME et il se trouve que tout au long de l'année, vous pouvez voir passer énormément d'informations passionnantes sur la culture et les animations.
Sur la culture, sur les animations, sur nos invités du tutélu, sur nos auteurs, des vidéos, plein de chose. Et puis, je voudrais vous dire un petit mot sur Fred Billy.
Oui.
Fred Billy, c'est le maître des cérémonies du Tutélu. Il connaît très bien. C'est la troisième édition du Tutélu. Il est là depuis le début avec nous.
Et on voit sur les bandes annonces.
Oui. Et donc, il a fait un travail.
Moi, j'ai cru qu'il était en rapport avec les bibliothèques IKEA. Non, rien à voir.
Non,
parce que je me dis Billy, la médiathèque.
Non.
Il n'y aura pas que moi. Hein, rassurez-vous.
Non. Et donc, Fred Billy, il a fait une collecte depuis le mois de janvier auprès de 10 personnes de l'agglomération montargoise qui ont vécu des aventures, mais aventures très diverses. Hein. L'aventure, en fait, ça revêt plein de choses différentes.
Et qu'il était allé voir, par exemple, Nadège.
C'est ça, Nadège Rento.
Combien de milliers de kilomètres en vélo.
Tout à fait, voilà. Donc on a des sportifs, on a un médecin qui est parti en Afghanistan faire de l'aide humanitaire. On a vraiment des gens super intéressants. Donc il devait y avoir un spectacle, malheureusement, qui n'a pas pu être monté à cause des conditions que l'on connaît. Il a fait donc
des
capsules qui sont visibles, qui sont diffusées en ce moment sur la page Facebook de la médiathèque. Et vous aurez le temps de les consulter. Et donc c'est lui qui
c'est le maître de cérémonie.
C'est ça, exactement. Et il connaît le sujet par cœur.
D'accord.
Et il revient. Bon, c'est bon signe.
Oui, c'est que ça lui a plu.
Voilà.
Ça lui plaît. Donc tout ça gratuit.
Tout ça gratuit, bien sûr.
Ouais. Okay,
et pour les auteurs, à la fin de l'après-midi, samedi, nous avons prévu, bien entendu, une vente dédicace.
Ah oui, venez, nous, on va vendre nos livres hein, et vous les signer en plus. Là, non. En
fait, avec non. Les libraires,
non.
Avec les libraires de Montargis.
Et une petite précision, vous n'êtes pas obligé de faire trois créneaux. Si vous venez à 14h, on est bien d'accord. Vous pouvez faire que celui de 14h ou que celui de 16h.
Oui, parce qu'en principe, effectivement, étant donné qu'on a été obligé de réduire la jauge des participants, on vous inscrit pour un créneau. Et puis, si vous souhaitez faire d'autres créneaux, on vous met sur liste d'attente et ça sera en fonction des disponibilités pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
Chaque créneau est différent.
Oui, chaque créneau est différent. Ça ne sera pas les mêmes personnes. On garantit que vous ne serez pas avec les mêmes personnes ni dans les mêmes lieux.
D'accord.
Inscrivez-vous.
Et après, tout ça, c'est aussi pour donner envie de lire des livres d'aventure qu'on retrouve ici à la médiathèque.
Oui, et puis pour faire du lien aussi, hein, pour permettre aux gens de se retrouver autour d'un thème, autour du livre, autour de la culture, et de vivre des aventures.
Voilà. Donc la grande aventure, c'est le 12.
Voilà, le tutélu, l'aventure tutélu.
D'accord.
Merci.
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 À bientôt.
C'est de zèle.
Rock and roll.
Entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L, dernière partie de l'émission. Et comme je vous l'indiquais au début de cette émission, nous sommes allés visiter l'atelier d'une artiste montargoise. Peinture, gravure, Laurence Nobilet nous raconte son parcours, nous parle de son travail, tout ça au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour Laurence Nobilet, merci de nous accueillir dans ton superbe atelier d'artiste qui est plein de surprises, très riche de création et d'autant plus riche de création que tu as eu donc toute cette période extraordinaire pour créer.
Bonjour Sandrine. Oui, c'est une période extraordinaire pour créer, effectivement.
Restons positifs.
Oui, il faut rester positif. Oh, mais c'est vrai, ça a été un moment de tranquillité dans la ville. Et donc, ça a permis de faire fleurir des nouveaux projets, on va dire.
Voilà. Alors, je découvre ton univers. J'apprends que tu as été élève aux Beaux-Arts à Paris, élève à l'école Boulle. Tu vas nous raconter ton expérience au Louvre. Raconte-nous tout ça, tout ce lit de connaissances et d'apprentissage artistique qui fait toi ce que tu es aujourd'hui.
C'est vrai que... Alors déjà, j'ai rencontré Patrice, mon époux, dans un des ateliers de la ville de Paris, en modèle vivant, voilà. Wow. Donc nous dessinions le modèle vivant. Et,
pas lui, le modèle
non, 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 c'était pas lui, non, non. Ça aurait pu, mais c'était pas lui, non. Et à l'époque, il était encore très facile d'étudier dans différents endroits en même temps. Donc en gros, on avait un pied au Louvre, où on faisait des copies de tableaux. Hein. On avait un pied dans les ateliers de la ville de Paris, un pied aux Beaux-Arts et un pied à l'école Boulle. Et donc, avec tout ça, on venait picorer différentes techniques, différents savoirs. Et ça a été, pendant 10 ans de formation, on va dire, une période assez formidable pour l'étude. Voilà.
Alors, on va reprendre un petit peu ce que tu me racontais tout à l'heure. Par exemple, au Louvre, la copie, ce moment de copie, d'échange aussi entre copistes. Et tu me disais que c'était plus vraiment la mode de faire de la copie et que c'est dommage.
C'est dommage. Les gens ne savent plus le travail que ça demande à un peintre, déjà en tant qu'exercice, tu vois, en tant qu'étude. Et surtout, quand tu tombes amoureuse d'un tableau ancien, au lieu d'avoir juste une affiche, de demander à quelqu'un de t'en faire une copie, ça change quand même l'aspect de recevoir une copie de tableau chez soi. Mais disons que moi, j'ai eu fait quelques expositions de copies de tableau, mais ensuite j'ai abandonné, si tu veux. Je n'ai pas continué.
Il y a des gens qui ont...
Il y a quelques personnes en France qui pratiquent la copie de tableau de façon très régulière, et puis d'autres qui le font de façon occasionnelle. Voilà. Patrice, mon époux, lui continue.
Il a
de temps en temps des commandes de copie de tableau. Ouais.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a des familles, par exemple, qui doivent se séparer d'un tableau de famille qui a une certaine valeur, et donc ils s'en séparent pour X raisons. Mais pour garder un souvenir, il demande à un peintre d'en faire une copie. Hein. Du coup, il y a une copie de tableau qui reste dans la famille. Hein. Voilà.
Voilà, tu disais que copier un tableau, c'est comme faire ses gammes, évidemment.
Oui, oui, c'était un exercice assez courant jusqu'au milieu du XXe siècle, on va dire. Les peintres, durant leur formation, avaient ces exercices à faire.
Voilà. Autre exercice, c'est ce que tu vas faire aux Beaux-Arts. Raconte-nous.
Oui. Alors, aux Beaux-Arts, c'était plutôt l'étude du modèle vivant, hein, auquel j'ai beaucoup assisté, hein, et l'étude de l'anatomie-morphologie, hein, qui a été un moment vraiment très important pour moi, hein, avec un professeur qui s'appelait Jean-François Debord, qui est toujours vivant, hein, puisque je viens de le retrouver sur YouTube. Hein, et il nous a laissé vraiment des éléments essentiels pour l'étude du dessin, qui est de connaître le corps humain, hein, mais beaucoup plus. Hein, ce serait très long à tout expliquer. Hein, ouais. Oui,
mais tu disais quand même, pour la petite anecdote, tu me racontais tous ces gens qui participaient à ces enseignements en amphithéâtre. Ah. Et il n'y avait pas que des étudiants. Enfin, si, il y avait aussi des étudiants en médecine.
Il y avait vraiment de tout. Tu avais les élèves des Beaux-Arts, tu avais des élèves qui venaient de l'extérieur. Tu avais l'école de médecine, hein, qui est juste à côté, qui venait aussi étudier le dessin. Parce qu'ils se rendaient bien compte que tu ne peux pas apprendre le dessin par l'informatique, tu vois. Tu dois prendre l'outil dans les mains. Et du coup, le professeur, sur un tableau immense, nous donnait vraiment un cours magistral absolument remarquable. Et puis, tu avais à l'époque Cartier-Bresson qui venait au premier rang. Mais tu avais aussi Marguerite, qui était taxi parisienne. Tu pouvais avoir un vieux député à la retraite. Donc, tu avais un mélange de personnages qui donnaient une ambiance assez chaleureuse, je dirais.
Alors, tout ça, c'était le début des années 80.
C'est ça, ouais.
Et en même temps, tu es à l'école Boulle et là, ouais, tu es en gravure.
Et là, ouais. Et la gravure. Alors, l'école Boulle, c'était vraiment. Pour moi, l'école Boulle, ça représentait la province. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de provinciaux qui venaient se former à l'école Boulle. Alors, ça pouvait être la sculpture sur bois, ça pouvait être la gravure, ça pouvait être l'architecture. Et c'était très équilibrant pour une parisienne que j'étais à l'époque. Parce que c'était des gens beaucoup plus structurés que les Parisiens. Hein. Tu sentais qu'ils avaient une vie beaucoup plus tranquille, moins dispersée. Et du coup, ça compensait avec l'ambiance des Beaux-Arts qui était quand même assez chaotique à cette période-là, puisque tu avais tout ce mouvement créatif, entre guillemets, de l'art conceptuel qui débarquait. Hein. Donc, tout était vraiment chamboulé aux Beaux-Arts, tu vois. On ne savait plus trop, les élèves, dans quelle direction aller. Donc, l'école Boulle, tac, ça remettait un peu le cap sur... Bon, on revient au béaba, tu vois. Savoir tenir son outil, apprendre un métier. Donc, pour moi, ça a été un bel équilibre. Voilà.
Alors, voilà. Après la parenthèse enchantée que représente la vie de famille, tu disais que tu avais... enseigner l'école à la maison à tes enfants.
Ouais.
Voilà. Tu es à fond à nouveau dans ton travail, tout comme ton mari qui ne partage pas le même atelier que toi.
Ouais. Oui, parfois on le partage quand même. Hein. Mais disons que le travail qui a été mis en route déjà il y a quelques années, et surtout avec le confinement où tout le monde a dû se retrouver... ensemble, moi, je me suis installée un atelier un peu solitaire, mieux organisé. Hein, mais parfois, je travaille dans le même atelier que Patrice, où on partage aussi énormément de choses. Et lui aussi m'aide énormément dans tout ce que j'entreprends. Hein.
Alors, voyons. On a justement autour de nous ce que tu entreprends en ce moment. On va parler d'abord de ça.
Ouais.
Parce que ces tuiles, elles sont formidables. Tu me disais que tu as travaillé quelque temps à Guédelon.
Oui, j'ai travaillé en tant que bénévole, hein, et je suis le projet depuis le début. Hein.
Oui.
Donc les ateliers, les équipes, disons les anciens, je les connais tous. Et effectivement, j'ai eu à un moment donné, dans ma période de bénévolat, j'ai participé à la confection de ces tuiles avec la terre de Puisay. Ensuite, ça devait partir au four. Hein. Mais c'est pas de là d'où c'est parti. Hein.
Ah.
En fait, ça c'est venu après,
ah,
en
oui,
fait.
D'accord.
Parce que si tu veux, on ne se rend pas compte de ce qu'ont fait les anciens, tu vois. C'est comme le canal du Briard, tu vois. On ne se rend plus compte que ça a été un travail titanesque Et ça a été avec la force des bras, des hommes, qui ont construit cette ville ancienne aussi, hein, qui est absolument magnifique. Et du coup, quand tu le fais, au moins une fois dans ta vie, tu te rends compte qu'il a fallu le faire, hein, que ça a pris du temps, hein, que ça a demandé de la force, et pas seulement. Mais ça a participé aussi à un projet de société, hein, ça c'est important. Hein. Et à chaque fois que je prends effectivement ce morceau de terre cuite, je pense à ces hommes, hein, qui les ont fabriqués avant moi. Et moi, si tu veux, ça me réjouit parce que j'essaie d'en faire quelque chose pour la génération d'après aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire que ça va venir décorer les intérieurs des hommes et des femmes, et j'espère qu'ils y trouveront évidemment un intérêt, hein, évidemment. Mais j'en suis certaine, hein, j'en suis certaine.
Alors, donc, il y a des tuiles de Chalette, il y a des tuiles de Ferrières, il y a des tuiles d'un petit peu partout. Tu glanes un petit peu partout tes tuiles. Et dessus, tu mets tes très jolis motifs. Alors, raconte-nous ce que racontent tes recherches de couleurs, etc.
Là, c'était des compositions plutôt qui prenaient la forme géométrique qui était le cercle. Donc pendant des années, j'ai fouillé dans tous les sens, et je pense que je n'ai pas encore terminé, hein, à travers le cercle. C'est-à-dire que c'est ma forme principale pour créer des compositions. Et en fait, quand tu crées... Alors là, ici, j'ai des petites séries, hein, mais j'ai aussi des séries qui sont beaucoup plus grandes, hein, et que j'ai nommées Tuilim, hein, un peu un jeu de mots avec les Kilim, hein, qui sont les tapis que font les Orientaux, qui peuvent être au sol, mais aussi sur les murs, tu vois, ce qui apporte de la décoration, qui apporte de la chaleur, qui apporte de la couleur, enfin, bon, ce qui apporte énormément. Et là, celle-ci, c'est un motif très, très simple, mais qui donne un aspect un peu de tapis aussi, hein, tu vois. Et puis là, cette année, j'ai essayé vraiment d'approfondir une gamme de couleurs, vraiment de rester sur 2-3 couleurs, pas plus. Et donc là, cette année, tout ce que je ferai, je serai dans cette gamme de couleurs. Voilà.
Tes pigments, tout est naturel. Ça, tu insistais là-dessus.
Tout est naturel. Tu vois, il y a des pigments qui sont derrière toi. Je travaille, tu vois, j'ai de la cire d'abeille. Bon, bah là, je montre un bloc, tu vois, mais ensuite, elle est diluée. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'encaustique, tu vois. Donc,
Ça sent super bon,
puis tu vois.
Ça sent dans tout l'atelier, d'ailleurs. Voilà. Monsieur Weber, je ne sais pas si vous pouvez nous faire sentir à travers votre caméra l'odeur qu'il y a dans cet atelier.
Et là, tu vois, voilà, quand elle est diluée. Hein,
Avec de l'essence. Ça sent très bon aussi.
Et je la redilue encore une fois avec de l'essence. Et ensuite, je la mélange avec des pigments. Voilà.
Donc, je pense de toute façon qu'il y a en plus une vraie cohérence de travailler des matériaux complètement naturels quand on est sur de la tuile ancienne.
Bon, il y en a certains, tu sais, même sur terre cuite, ça dépend de chacun, mais petit à petit, à force de faire, tu te rends compte que tout ce qui est naturel, ça resplendit beaucoup plus, il n'y a rien à faire. Et en plus, sans le vouloir, mais... C'est inconscient, finalement. On est dans une époque où on veut retrouver aussi ces éléments naturels, tu vois. Mmh. Et ils nous font du bien aussi, hein. Faut pas oublier, hein. C'est que quand tu décores un mur avec des matières naturelles, hein, alors il y a l'aspect beau, hein, si on reste dans le côté esthétique, mais aussi tu sens qu'il y a une parenté, tu vois. La terre, les pigments, la cire, on est fait de choses assez similaires, tu vois. Et donc, ça, c'est un peu inconscient, mais si tu t'habitues à vivre avec... et que tu te retrouves dans une pièce peinte uniquement avec de la pétrochimie, tu sens vraiment une vraie différence.
Ouais, il va falloir que je refasse tout mon appartement, c'est dur.
Il y a un champ immense à redécouvrir, tu vois. Vraiment, vraiment, à redécouvrir.
D'ailleurs, à ce propos, il y a tous les murs de ton atelier qui sont repeints, c'est magnifique.
On a fait des panotages... qui sont à la chaux, effectivement.
Bon, alors, puisqu'on parlait de gamme de couleurs, eh bien, en effet, cette gamme de couleurs, on la retrouve dans tes gravures.
Ouais. Alors, oui, en fait, je travaille sur 3 techniques différentes. Des grandes toiles peintes, hein, avec comme forme géométrique principale le cercle. Hein, et je laisse aussi la toile apparente, c'est-à-dire que je ne recouvre pas tout. Hein. Le deuxième pan, c'est sur terre cuite. Et le troisième, c'est la gravure sur linoléum, hein, un peu sur bois, qu'on appelle le contreplaqué japonais, mais essentiellement sur linoléum. Et là, je reprends souvent des motifs que j'ai expérimentés sur la terre cuite, que je reprends pour décorer les costumes des personnages. Et je fais des figures que j'imprime ensuite sur papier, hein, donc gravées. Il y a toute la partie du dessin de recherche qui prend énormément de temps, mais bon, voilà. Ça, en général, on ne s'en rend pas compte. Et ensuite, une fois que c'est séché, hein, je découpe mes personnages qui, finalement, se transforment en gravure. Voilà. Et qui sont collés sur du métal. Donc, tu vois, ils peuvent se transformer en sculpture. Hein. Ou alors sur un petit panneau de bois, si Anita... Ouais, voilà, il y a celui-ci. Hein. Pardon. Voilà. Ou sinon, tu vois, c'est-à-dire que là, la gravure peut être une sculpture. Hein. Si on la retire, tu vois, là, ça se retire sur un panneau. Hein. Donc, hop, je vais essayer de l'enlever, voilà, gentiment. Donc là, elle est toute seule. Hein. Celle-ci s'appelle confinement. Donc ça a été fait lors du premier confinement. Et ensuite, c'est sur un panneau de bois, pareil, hein, avec que des matières naturelles, puisque là, voilà, un lait chaud. Là, il y a du lait et de la chaux. Hein. Tu vois, c'est un doux mélange. Et du coup, ça donne un aspect très doux, des couleurs magnifiques, puisqu'on utilise aussi des pigments. Hein. Et donc, voilà. Donc là, avec tout ça, il n'y a plus qu'à exposer, il n'y a plus qu'à montrer, quoi, en gros. Hein. Tu vois, il y a suffisamment de choses maintenant.
Bon. Toutes ces années. Hein. Merci. Il n'y a plus qu'à montrer.
Ouais. Il n'y a plus qu'à montrer, ouais.
Comment on fait ?
Alors, là, ça, c'est une grande question, puisqu'aujourd'hui, cette année, voilà, tout était gelé, on va dire. Hein. Et puis, il y a tous ces nouveaux moyens de se montrer aujourd'hui de façon virtuelle. Hein. Donc, tu as tout un système de galeries en ligne. Mais tu as aussi des rencontres qui se font, parce que, si tu veux, quand tu partages ton travail à travers Facebook, à travers Instagram, tu as ton site toujours... Tu as des retombées et tu peux avoir des demandes à l'autre bout du monde. Tu dis, écoutez, votre travail est formidable. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une exposition à je ne sais où ? Tu vois, tout est possible, en fait. Donc là, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Tu as aussi tous les salons en province, à Paris, à l'étranger, qui sont aussi des possibilités. Hein. Un ami me disait dernièrement que les Français, on est un petit peu en retard, hein, mais chez les Anglo-Saxons, tu as de plus en plus d'artistes qui se vendent maintenant directement. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent une galerie en ligne, hein, oui. Ils montrent leur travail, et tu peux acheter ça comme si tu achetais un vase.
Bon, alors, si je veux acheter du Laurence Nobilet, je fais comment ?
Là, pour l'instant, je n'ai... Chaque chose en son temps. non, mais je veux dire, de façon à l'anglo-saxonne, j'en suis pas encore là, tu vois. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Je crois qu'en France, on n'est pas encore prêt à acheter une œuvre directement. Ça arrive, hein. J'ai des amis artistes. Tu as des gens qui passent directement par eux, disent, écoutez, votre travail est magnifique. Est-ce que je pourrais pas venir voir votre travail ? Ça peut éventuellement se passer comme ça. Mais ça reste encore de façon traditionnelle. On passe par la galerie qui, elle, authentifie un peu ton travail, qui réconforte le client, si on peut dire.
Alors, pour sortir un petit peu de ces considérations quand même pragmatiques, donc tes inspirations, on parle de Moyen-Âge, c'est une période que t'aimes beaucoup, mais t'aimes beaucoup aussi les... Tu parlais de la civilisation chinoise ou...
Oui, c'est... disons qu'avant tout, c'est surtout tout ce que je fais... Hein. C'est en deux dimensions. Donc, si tu veux, tout ce qui est en rapport avec la perspective et le volume, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce n'est pas dans ma nature. Hein. Donc, je me suis j'ai choisi de m'aventurer dans cette voie qui me correspond bien. Et de là, effectivement, de toute façon, il y a des choses à puiser dans toutes les grandes civilisations, ça c'est certain. Le Moyen-Âge, mais pas que. Hein. Il y a des choses qui ont été magnifiques à la Renaissance, dont je m'inspire énormément. Et tu as des gens du XXe siècle, comme des gens comme Bonnard, par exemple, Matisse, qui ont fait des très très belles choses aussi et qui sont tout aussi inspirantes. Donc je ne m'empêche pas d'aller de m'en nourrir, ça c'est certain. Je me nourris beaucoup du passé, hein. Ça c'est sûr. Hein.
Enfin, se nourrir du passé, c'est avoir des références aussi, avoir un limon.
Oui, écoute, il y a une phrase qui dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Et je suis assez contente d'avoir un lien avec ce passé. Et le Moyen-Âge, c'est vrai, c'est magnifique. Parce qu'en plus, à l'époque, les artistes, on ne nommait pas le nom des artistes. Tu vois, ça reste des œuvres sans nom. Et ça, je trouve ça très beau. Et ils nous ont laissé un témoignage quand même assez remarquable. Où je trouve qu'on ne le regarde pas suffisamment. On devrait retourner à aller les observer, tu vois. Ouais.
Alors, tu nous as accueillis d'une façon extrêmement chaleureuse, volubile, et je t'ai tout de suite demandé, y aura-t-il des cours d'enseignement avec Laurence Nobilet ?
Oui, on est en train de... ça va aussi un peu dans l'ordre des choses, tu vois, quand t'as une famille, que les enfants grandissent, il y a un petit moment de flottement, hein. Et effectivement, on est en train de mettre ça en place. Alors, il y a des choses qui se feront certainement dans la région, dans le Gâtinais, hein, mais aussi à Paris, hein, parce que mon époux aussi compte ouvrir des cours de modèles vivants, mais aussi de techniques anciennes. Hein, et aussi, il y a tout un pan sur les peintures naturelles, transmettre toutes ces techniques que l'on peut fabriquer soi-même. Voilà. Donc, il y a un champ immense à mettre en place.
Tu nous as laissé entendre que la prochaine fois, on pourrait aller dans l'atelier de ton amoureux ?
Oui, tout à fait.
Tu peux nous aider à rentrer en contact avec lui ?
Ça va être facile, Pascal le connaît bien. Oui, c'est très facile. Hein. C'est très facile, un très beau lieu où il y aura de quoi aussi découvrir plein de choses.
Bon. Ça te plaira, Sandra.
Ah bah merci. Merci beaucoup, Laurence.
À bientôt. Merci à toi, en tout cas, pour cet échange. Hein.
Mais j'aimerais te voir un jour aussi dans le cadre d'une exposition.
Ouais. Oui, il y a Orléans qui offre... Il y a un salon auquel on a participé qui s'appelle le Salon des métiers d'art. Des métiers d'art. Hein. Qui est un salon qui est assez bien organisé et assez chaleureux. Hein. Ces dernières années, on n'a pas pu y retourner pour X raisons. Parfois, on n'était pas disponible. Et puis, bon, les salons étaient annulés. Hein. Et puis l'avenir, sera fait de surprises, de bonnes surprises, hein, j'espère, hein, de belles rencontres comme aujourd'hui. Hein. Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
Nous étions entre Loire et Loing en ce samedi 5 juin sur C2L. N'oubliez pas demain la balade à moto, la route de l'espoir, c'est demain matin au lac de Chalette. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la médiathèque de l'âme pour participer samedi prochain le 12 juin à l'aventure Tu t'es lu, cette mystérieuse aventure dans les rues de Montargis. Merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe, Bruno Chiron, Patrice Avzar, Sandrine Manteau, Anita, JB, Émilie, l'équipe de C2L. Merci à moi-même, tiens, Pascal Weber. Je m'autocongratule pour la réalisation de cette émission. Mais vous en êtes un autre, très cher. De rien, il n'y a pas de quoi. N'oubliez pas de retrouver également nos vidéos sur les internets, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On se retrouve samedi prochain à 10h, toujours sur C2L. Pour un nouveau numéro qui abordera entre autres la laïcité, on parlera de libre pensée. D'ici là, passez une bonne semaine et un excellent week-end à l'écoute de C2L.
C2L.
Cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, c'est idiot comme un tueur. tête si je ne jouais pas à ce petit jeu. 15 départs, boulevard de Belleville. Tout pour les dollars, je mise 100 000. Tout pour le pouvoir, l'homme imbécile. Qu'on le blâme quand il abuse. Au jeu de dames, oui, je t'accuse. L'homme est infâme, oui, l'homme. Il s'amuse. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu. Petit jeu, petit je ne joue pas à ce petit jeu. Petit je ne joue pas à ce petit jeu. Petit je ne joue pas.
Joker.
Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Petit je ne joue pas à ce petit jeu.
Allez, chante.